Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les bulles nomades de Streetcast Optimiste. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'ai envie de vous partager un apprentissage que j'ai compris en ce mois de novembre 2020 et qui m'aide énormément. Et c'est l'idée d'y aller petit à petit et de me focaliser sur la répétition plutôt que sur la performance. Alors bien sûr, comme tout le reste, à vous de trouver votre mode de fonctionnement, quelque chose qui vous convient. Je vous partage une observation que j'ai découvert là le mois dernier, que ça fonctionne extrêmement bien pour moi, mais peut-être que ça ne vous conviendra pas à vous. Donc comme pour toutes les pistes de réflexion que vous pouvez découvrir, que ce soit ici sur les bulles nomades ou ailleurs via d'autres personnes, je vous invite vraiment à faire le test, voir si ça vous parle, et décidez pour vous-même, après avoir testé, si ça vous convient autant qu'à moi ou pas. Mais en tout cas, moi, comme ça me convient extrêmement bien, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec vous, si jamais il y a des personnes qui fonctionnent, qui ont un mode de fonctionnement un petit peu similaire au mien. Donc ce qui m'a permis de faire cette observation, ce sont deux expérimentations qui ont eu lieu courant novembre 2020. Donc j'enregistre ce podcast en décembre 2020, donc c'était le mois dernier pour moi, et qui m'ont permis de découvrir cette manière de faire pour moi-même. La première de ces deux expérimentations, c'est le défi d'écriture NaNoWriMo, ou National Novel Writing Month, qui consiste chaque mois de novembre à écrire 1667 mots par jour pour un total de 50 000 mots écrits en un mois, ce qui correspond à un petit roman, si on veut. Donc ça, c'est le principe initial du défi tel qu'il est proposé depuis plus de 15 ans maintenant, je crois, à tous les écrivains et écrivaines du monde entier. Et je sais pas pour vous, mais moi, en général, que ce soit ce défi-là ou d'autres défis, je préfère adapter ce genre de défi, ce genre d'animation, finalement, à ma sauce. Je préfère trouver ce qui marche pour moi plutôt que de suivre des règles à la lettre, même si elles me conviennent pas, vous voyez ce que je veux dire. Et en 2018 et 2019, là, c'est la troisième fois que je participe au NaNoWriMo. Et en 2018 et 2019, j'ai participé avec leurs règles des 50 000 mots. J'ai vraiment suivi le défi à la lettre. Et j'ai effectivement écrit 50 000 mots en 2018 et en 2019. Mais en relisant mes journaux de suivi, parce que j'ai un journal de suivi que je mets dans mon bullet journal classique ou mon bullet journal d'écriture pour cette année, je me fais un petit journal de suivi où chaque jour je marque un petit peu mes ressentis, combien de mots j'ai écrit, comment je me suis sentie, ce que j'en ai pensé, ce genre de choses. Et en relisant mes journaux de suivi de 2018 et 2019, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup forcée en fait, je me suis mis la pression et j'ai un peu écrit ces 50 000 mots dans la douleur en fait, hein, ces années-là. Et résultat, ça, je m'en souviens aussi l'année dernière, il y a 2 ans, je me suis rendu compte que j'ai arrêté d'écrire pendant plusieurs semaines à la suite des NaNoWriMo de 2018 et de 2019 parce que ça m'a complètement brûlée en fait de m'être poussée comme ça, de m'être foutue la pression comme ça. Et aucune de ces deux itérations précédentes du défi ne m'a permis d'ancrer une routine d'écriture durable. Du coup, pour le NaNoWriMo 2020, j'ai décidé d'adapter les règles du défi à mon propre fonctionnement, à commencer par choisir mon propre but pour ce défi. Pourquoi moi, je choisis de participer au NaNoWriMo en 2020? Donc, écrire un roman de 50 000 mots en un mois, personnellement, c'est pas un objectif qui me parle. C'est-à-dire que si j'écris tout au long de l'année, et je compte écrire tout au long de l'année parce que j'aime écrire, j'ai pas vraiment besoin de ce genre de défi pour terminer par exemple un roman par an, parce que le but des gens qui participent dans le but d'écrire 50 000 mots, c'est pour qu'ils aient au moins un manuscrit de roman par an qu'ils vont venir corriger derrière, etc. quand ils ont pas beaucoup de temps ou parce que ça les motive, parce qu'ils participent à l'émulation avec tous les autres qui participent aussi, etc. Moi, tout ça, c'est pas des objectifs qui me conviennent particulièrement. Du coup, je me suis plutôt concentrée sur ce qui m'importe à moi dans le domaine de l'écriture en ce moment. Et du coup, mon but a été, petit 1, de me reconnecter avec le plaisir d'écrire, avec la joie et l'enthousiasme de l'acte d'écrire en soi, donc le processus plutôt que le résultat. Et petit 2, de faire des tests, en fait, pour ancrer une routine d'écriture quotidienne. Parce qu'un problème que j'ai eu en 2020, c'est que j'ai vraiment écrit en dents de scie, avec des semaines où j'ai écrit tous les jours, où j'ai bouclé des choses, et après des mois entiers sans rien écrire. Et l'écriture, c'est un peu comme d'autres habitudes, hein. Quand on s'arrête pendant longtemps, c'est très difficile de reprendre. Donc j'aimerais bien ancrer une routine d'écriture quotidienne. Du coup, avec ces deux objectifs-là en tête, retrouver le plaisir d'écrire et retrouver une routine quotidienne, j'ai participé au défi NaNoWriMo en novembre 2020 en mode slow, c'est-à-dire sans objectif de performance, avec seulement un objectif de répétition. C'est-à-dire que le but, c'était de me mettre devant mon texte tous les jours en novembre, même si ce n'est que 5 minutes pour relire la dernière phrase et écrire la suivante. Donc aucun objectif de performance, de durée, de nombre de mots ou quoi que ce soit, mais par contre un objectif de répétition. Chaque jour, je trouve 5 minutes pour ouvrir mon fichier texte et lui consacrer mon attention pendant 5 minutes. Donc en fait, l'idée là, c'était d'écrire un petit peu à la fois. L'important n'étant pas le nombre de mots écrits, mais comment je me sens quand j'écris. L'important, c'était de garder un lien quotidien avec mon texte, petit à petit, en privilégiant la répétition plutôt que la performance. Alors, j'ai pas écrit 50 000 mots, hein. Évidemment que la performance n'a pas été au rendez-vous quand je ne me suis pas mis la pression sur la performance. J'ai écrit à peu près 20 000 mots, donc un peu moins de la moitié de ce que j'ai écrit les autres années. Donc oui, effectivement, en termes de performance, c'était moins bien. Par contre, j'ai écrit tous les jours. Et même si je n'en avais pas toujours envie au moment de m'y mettre, le fait de me mettre zéro pression d'objectif et de m'autoriser à arrêter au bout d'une seule phrase si j'avais pas le temps et l'énergie, ça a fait que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à écrire. Parce que j'ai arrêté de le vivre comme une obligation en fait. Parce que je n'avais plus la pression des chiffres, c'était moi qui décidais. Je retrouvais le choix. Et du coup, quand j'écrivais, je savais que j'écrivais parce que j'en avais envie. J'avais réussi mon objectif de me pointer devant mon texte. Je savais que je pouvais arrêter quand je voulais. Donc, je continuais parce que j'avais envie de continuer. Et rien que ça m'a redonné un enthousiasme de dingue autour de l'écriture. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Certains jours, j'étais fatiguée ou j'étais très très occupée, puisque je suis en plein lancement du jeu vidéo sur lequel je travaille. Donc, j'ai eu un mois de novembre en 2020 très très chargé. Donc ces jours-là, je n'ai écrit qu'un petit paragraphe. Je crois qu'il m'est arrivé une seule fois d'écrire une seule phrase. À chaque fois, une fois que j'étais dedans, j'ai écrit au moins un paragraphe. Et d'autres jours, ben, je suis rentrée dans un état de flow incroyable après m'être mise devant mon texte et j'ai écrit un chapitre entier. Et en fait, le résultat de ça, c'est que j'ai écouté mes rythmes aussi. Donc je me suis adaptée à mon emploi du temps et au temps que j'avais devant moi, mais je me suis aussi adaptée à mes fluctuations d'énergie, à mes fluctuations d'envie aussi, parce que je suis un être humain, je ne suis pas une machine. En fait, on ne peut pas attendre d'un être humain qu'il ait une performance constante chaque jour du mois comme on l'attend d'une machine. C'est pas comme ça que marchent les êtres organiques. C'est normal qu'il y ait des fluctuations et qu'il y ait des cycles, en fait. Et du coup, cette technique-là de venir et de me laisser avoir la performance que je peux avoir ce jour-là, ça prend en compte, eh bien, mon fonctionnement d'être vivant organique, tout simplement. Donc, on en reparlera dans quelques semaines sur l'effet à plus long terme de ce défi NaNoWriMo en mode slow, mais pour l'instant, je suis restée sur ma lancée. C'est-à-dire que contrairement aux autres années où j'étais sortie du NaNo complètement brûlée à ne plus pouvoir voir l'écriture en peinture pendant des semaines, là, je continue à écrire un petit peu tous les jours. J'ai une petite enquête spin-off du roman que j'étais en train d'écrire. J'ai des corrections aussi que je suis en train de commencer sur une petite novella qui est prévue à mettre sur la boutique normalement avant Noël si je suis pas trop prise par le travail. Et donc voilà, je continue à consacrer du temps à mes textes de fiction tous les jours sauf le week-end. J'ai décidé que le week-end, il me fallait vraiment une pause et j'écris que si je veux le week-end, je me force pas à me pointer devant mon texte le week-end. Et voilà, je sais à peu près à quelles heures je peux écrire autour de ma journée de travail parce que j'ai fait plein de tests en 30 jours en novembre. Et je sais, en fait, je me fais confiance de pouvoir ajouter au moins une phrase à mon texte chaque jour. Parce que c'est ça aussi, c'est le fait de m'être pointée pour moi-même avec régularité, quelle que soit la performance. Le fait de ne pas m'être lâchée moi-même, je me fais confiance aussi. Je me fais confiance d'ancrer une habitude et je me fais confiance de continuer cette habitude. Et ça enlève aussi énormément de stress. Le fait d'avoir confiance dans le fait que si je décide de faire quelque chose tous les jours, je le ferai tous les jours. Et bah du coup, j'ai pas le stress de me dire et si je le fais pas et si j'ai pas le temps. Parce que je me suis prouvé à moi-même que même si j'ai pas le temps, je peux trouver 5 minutes pour le faire. Donc ça, c'est un deuxième point aussi qui est intéressant. C'est le fait que d'avoir privilégié la répétition à la performance, ça m'a donné confiance en moi, en fait. Et ça m'a montré que je pouvais compter sur moi-même. Voilà, donc on verra après, dans les semaines à venir, si je continue à garder cette habitude de consacrer un peu de temps à mon texte tous les jours en faisant attention à mon temps et à mes niveaux d'énergie. Donc une deuxième chose que j'ai comprise au fil de ce mois d'écriture, donc la première c'est que ça me donne confiance en ma propre capacité à être là pour moi-même, et la deuxième chose que j'ai comprise au fil de ce mois d'écriture, c'est que même une phrase, même 5 minutes, ce n'est pas rien. Quand on le prend séparément comme ça, on peut se dire « bon bah ok, j'ai que 5 minutes devant moi avant mon prochain meeting par exemple, que j'ouvre mon texte pour relire une phrase ou que je fasse rien, franchement ça va rien changer ». Eh ben si, ça change quelque chose. Avancer un tout petit peu, contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement, ce n'est pas pareil que de ne pas avancer du tout. Et sur le long terme, c'est loin d'être pareil que de ne pas avancer du tout. Et d'ailleurs, plusieurs principes dont on reparlera sûrement dans des podcasts suivants, courant 2021, parlent de cette notion de progrès progressif, de petits pas, de l'importance des petits pas, et que quand on cumule ces petits pas-là, bah, ça fait des grandes choses en fait. Comme par exemple le concept du Kaizen au Japon, on en reparlera, ou bien le concept d'effet cumulé de Darren Hardy, je crois qu'on en a déjà parlé de ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer, en fait, le pouvoir de la répétition, même si on ne fait que 5 minutes un jour, et qu'on ne fait pas 2 heures à chaque fois, ou qu'on ne fait pas 1667 mots à chaque fois. Ce que j'ai constaté dans le cadre de l'écriture, pour vous donner un exemple un petit peu concret, hein, c'est que d'écrire même 5 minutes, ou de relire ma scène précédente sans rien écrire du tout, ça me permet de rester en lien avec mon texte en fait. Ça me permet de rester en lien avec mes personnages, avec mon inspiration, avec mes idées, avec ce que j'ai envie de créer pour ce texte. Et en fait, j'ai constaté au fil du mois de novembre que c'était de plus en plus facile de me plonger dans mon texte vite, après le moment où j'ai ouvert le texte, et que je me plongeais de plus en plus facilement en état de flow. En fait, j'étais de moins en moins facilement distraite et de plus en plus concentrée. C'est-à-dire que le 1er novembre, quand j'ai ouvert mon texte, eh ben, y avait les réseaux commerciaux, il y avait le Discord, il y avait les mails, il y avait les machins. J'ai mis au moins 15 ou 20 minutes, ne serait-ce qu'à focaliser mon attention sur mon texte. Il m'a fallu encore un autre pomodoro là, de 15-20 minutes pour aller venir écrire la première phrase. Et c'est seulement au bout de quasiment 3 quarts d'heure que j'ai commencé à rentrer dans le truc. Et j'ai regardé dans mes journaux, là, sur la fin du mois de novembre, sur la deuxième quinzaine de novembre, j'étais capable de rentrer dans mon texte en 20 minutes entre deux réunions et en 20 minutes d'écrire un paragraphe entier. Donc il y a une vraie progression sur le mois, même si, prise séparément, chacune des répétitions était parfois très très courte. D'ailleurs, Cal Newport en parle dans son livre Deep Work sur le travail en profondeur. Il dit que la concentration est un muscle qui se travaille. Donc pour moi, me pencher sur mon texte avec régularité, même si la durée des sessions est inégale, ça a eu un effet énorme sur ma capacité à entrer en concentration. Et quand je vois les bénéfices que j'ai eus sur un seul mois de défi, mais j'imagine ce que ça doit être en termes de bénéfices quand vous gardez ce genre de régularité sur toute une année par exemple, que ça devient vraiment une habitude ancrée dans le quotidien, c'est incroyable. Alors que si on s'arrête totalement, et moi, comme je vous disais, ça m'arrive régulièrement et ça m'est arrivé en 2020 de passer plusieurs semaines sans rien écrire, sans même ouvrir mon fichier texte. Eh bien, au fil des jours, je m'éloigne du texte, je m'éloigne de mes personnages, j'oublie mon intention créative, ma plume se rouille et ça devient hyper dur de m'y remettre. Et comme je sais que ce sera dur de m'y remettre, je procrastine et je continue à ne pas écrire jour après jour. Du coup, quelques jours ou une ou deux semaines d'arrêt total deviennent 3 mois d'arrêt total parce que je rentre dans la procrastination et c'est de plus en plus difficile de m'y mettre. Et ces 3 mois-là, pendant lesquels, si j'avais favorisé la répétition plutôt que la performance, peut-être qu'en 3 mois, j'aurais écrit un chapitre, une partie, ou peut-être même une nouvelle ou une novella entière. C'est-à-dire que 3 mois d'effets cumulés de petits pas chaque jour, ça change quand même énormément la donne, sans compter que quand je me remets à écrire 3 mois plus tard, au lieu que ça me prenne 45 minutes pour rentrer dans mon texte, vu que j'ai gardé le lien avec le texte, j'y retourne beaucoup plus vite. Et finalement, c'est un petit peu comme le sport. Plus on arrête longtemps, plus la reprise est difficile, plus on repousse ce moment. Alors qu'en se mettant un objectif de répétition, peu importe la performance, l'effet cumulé se met en route. Et du coup, c'est de plus en plus facile de faire des sorties régulières, même si la performance n'est pas toujours au rendez-vous. Et ça fait une transition parfaite, vu que le deuxième élément en novembre qui m'a fait réfléchir à ce sujet, c'est ma reprise de la course à pied. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels, et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui le font déjà. Le deuxième élément où j'ai testé cette notion de répétition plutôt que de performance, c'est avec la reprise de la course à pied. Donc j'ai aussi repris la course à pied pendant ce mois de novembre, en plus du NaNoWriMo. Après la convalescence que j'ai eue de notre virus préféré que j'ai attrapé au mois d'octobre. Et en gros, je me suis fixée de mettre mes baskets et de sortir courir 3 fois par semaine. Chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Donc la plupart du temps, je fais ça le matin vers 8h avant de commencer le travail, parce que je suis plutôt matinale, c'est le matin que j'ai le plus d'énergie et c'est le matin que je suis le plus motivée. Donc c'est une des premières choses que je fais après avoir bu mon café le matin. Mais parfois, comme je vous disais, j'ai eu un mois de novembre assez compliqué en termes de travail, donc il est arrivé que je sois allée courir sur la pause midi. Et comme pour le défi d'écriture d'un NaNoWriMo, je ne me suis fixé aucun objectif de performance. Zéro. Pas de durée, pas de vitesse. Je pourrais très bien sortir de chez moi avec ma tenue de sport et mes baskets, aller au bout de la rue et revenir. Et même revenir en marchant. Le seul objectif, c'est de mettre ma tenue de sport et de sortir de chez moi. Lundi, mercredi et vendredi. Évidemment, sauf si je suis complètement au fond de mon lit, hein, soyons raisonnables aussi. Hein. Mais voilà, à moins de 4 forces majeures, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, je sors avec mes baskets. Si je suis fatiguée, si je manque de temps ou autre, je me fais un petit tour du parc. Quand je vais jusqu'au parc, que je fais un tour et que je reviens, ça fait 1,5 km, ça fait 10 minutes, c'est vraiment, jusqu'à présent, ça a vraiment été le minimum, j'ai pas couru moins que ça. C'est rien, c'est pas grand-chose, hein. Si vous faites de la course à pied, 10 minutes, 1,5 km, c'est pas grand-chose. Mais ça fait toute la différence avec ne pas courir du tout. Donc au départ, quand j'ai recommencé à courir là, début novembre, j'ai effectivement fait des petits 2 km, tout doucement, j'ai retrouvé les chiffres de vitesse et tout qu'il y avait au tout début quand j'ai commencé la course à pied, etc. Parce que ça faisait des mois que j'avais pas couru. J'avais pas couru depuis le premier confinement en fait. Mais j'ai quand même eu des effets immédiats. Alors déjà, le premier jour où je suis ressentie courir, j'ai eu des courbatures, j'ai couru 2,5 km à 8 minutes du kilomètre et j'avais des courbatures aux cuisses. Le lendemain, je me suis dit, mais la loose, ça montre à quel point on perd en fait quand on s'arrête complètement. Mais voilà, j'ai repris les 3 fois par semaine et j'ai déjà eu quand même des effets immédiats. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je me sens mieux la journée quand je vais courir le matin, même si je cours pas longtemps. J'ai remarqué que sur un mois, ma performance a déjà commencé à s'améliorer en termes de vitesse, en termes de durée pas trop, parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, mais je vois qu'en termes de vitesse, d'essoufflement, etc., il y a déjà un bénéfice sur ma santé au bout d'un mois. Et surtout, 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 donc là ça fait un peu plus d'un mois au moment où j'enregistre ce podcast, enfiler mes baskets chaque lundi, mercredi et vendredi, c'est en train de devenir une habitude, quelque chose d'automatique, quelque chose de naturel qui n'est même pas sujet à débat. C'est-à-dire que je me lève le lundi, je me dis pas « Ah, oh, il fait pas beau, est-ce que je vais... » Non, 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 non. Le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est course à pied, c'est course à pied. Il n'y a pas de débat intérieur, en fait. Juste, je mets mes baskets et puis c'est tout. Donc ça, c'est top, parce qu'en fait, au lieu de tergiverser avec moi-même pour savoir si je vais courir ou pas, j'y vais, c'est tout. La décision a déjà été prise. Et mon seul engagement, c'est la régularité. Donc c'est très très simple comme décision, en fait. Et j'y vais sans stress, parce que je sais que si je manque de temps ou si j'ai pas beaucoup d'énergie, je vais écouter mon corps et je vais revenir rapidement, puisqu'il n'y a aucun objectif de performance, donc il n'y a aucune pression, en fait. C'est encore récent, tout ça. On va bien voir ce qui va se passer. On va bien voir ce que va devenir mon habitude d'écriture et ce que va devenir mon habitude de course à pied dans les semaines qui viennent. Mais la différence que je remarque dans les deux cas, par rapport à des défis précédents que j'ai pu faire ou des habitudes précédentes que j'ai essayé de mettre en place, c'est la facilité avec laquelle je m'y tiens. Sans objectif de performance, en fait, je remarque que je n'ai pas besoin de me forcer, j'ai pas besoin de négocier avec moi-même quand j'ai pas envie de le faire ou ce genre de choses-là. En fait, quand je vais faire ma répétition, je me fais confiance d'adapter mes efforts à mon énergie du moment. Et du coup, ça me rend hyper sereine. Parce qu'au lieu d'y aller à reculons en me disant « il faut que je cours 5 km mais j'ai vraiment pas l'énergie » ou en me disant « il faudrait que j'écrive 2000 mots mais là j'en ai plein la tête, j'ai pas d'énergie créative, je peux pas, etc. » et que du coup ça va être hyper stressant pour moi l'idée que je ne vais pas réussir à atteindre mon objectif de performance. Là, comme je n'ai aucun objectif de performance, et bah du coup je n'ai aucun stress, je n'ai aucune pression. Je me fais confiance de faire 10 minutes si j'ai l'énergie de faire que 10 minutes, une heure si j'ai l'énergie de faire une heure, et je me fais confiance de m'écouter en fait et d'être en alignement avec mon énergie du moment. Et du coup, ça, non seulement ça me rend hyper sereine, mais en plus je me suis rendu compte que là j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'aller courir. C'est pas quelque chose que je fais contre moi-même. Et ça, c'est vraiment ma plus grande victoire. Ces habitudes, en tout cas là, aujourd'hui, mi-décembre, 6 semaines après avoir commencé à les mettre en place, je ne me fais pas violence pour les tenir. J'ai envie d'avoir ma petite session d'écriture quotidienne et j'ai envie d'aller courir avec mon podcast sur les oreilles. Et c'est un truc de dingue parce que c'est pas que d'habitude j'ai pas envie d'écrire ou c'est pas que d'habitude j'ai pas envie de faire de la course à pied. La course à pied j'en fais depuis 2012, écrire je fais ça depuis que j'ai 6 ans, personne ne m'a jamais forcé à écrire et depuis que je me suis mise au sport personne ne m'a jamais forcé à faire de la course à pied. Je sais que c'est un sport qui me convient, je sais que l'écriture est un art qui me convient, donc évidemment il n'est pas question de me forcer à quoi que ce soit de base. Mais il n'empêche que ce genre d'habitude un petit peu saine, etc., aller courir 3 fois par semaine, faire ma petite session d'écriture tous les jours, etc., jusqu'à présent, il y a eu des hauts et des bas en fait. Il y a eu des moments où j'avais envie, où c'était facile, où c'était cool, et il y a eu des moments où j'avais vraiment pas envie et où je me faisais violence et où j'y allais vraiment à la volonté, et ça dépendait des jours. Là, encore une fois, on verra, on fera un petit point peut-être dans 2-3 mois, je vous en reparlerai, mais pour l'instant, je n'y vais pas à la volonté en fait. Peut-être qu'il y a un petit démarreur de volonté très vite au moment de me mettre en route, mais comme du coup j'ai décidé d'une répétition, comme je vous expliquais avec la course à pied, c'est décidé à l'avance, donc il n'y a pas d'énergie mentale qui est dépensée à essayer de me convaincre de le faire ou pas le faire, parce que je sais que c'est tous les jours comme ça, ou tous les 2 jours comme ça. Et du coup en fait j'ai pas besoin de volonté pour le faire, c'est... J'ai envie. Si j'ai envie de le faire que 5 minutes, je le fais que 5 minutes. Si j'ai envie de le faire une heure, je le fais une heure. Mais il n'y a pas cette espèce d'énergie négative, d'obligation, de frustration, de pression, de résistance, etc. Comme j'ai pu avoir par le passé. Et ça, c'est vraiment un truc de fou, en fait. C'est que quand vous mettez en place une habitude et que vous vous rendez compte que vous avez envie de le faire, que vous prenez plaisir à le faire... Bah, ça change complètement la perspective parce que du coup vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh mon Dieu, je vais jamais tenir ça toute ma vie. » Enfin, quand vous avez envie de le faire, si vous le tenez toute votre vie, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si l'état d'esprit changeait d'un état d'esprit entre guillemets de régime alimentaire où on se dit « Bon, faut que je tienne, mais c'est que pour quelques mois, puis quand j'aurai maigri, ça ira mieux. » Non, là c'est vraiment un état d'esprit de « Je suis en train de mettre en place les fondations d'un mode de vie qui va être un mode de vie que je me sens capable de tenir jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'il ne s'agit pas de tenir. En fait, j'ai envie de le faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui change tout. Et pour terminer, ça m'a amené, donc ces deux expérimentations-là qui se rejoignent sur la même constatation, ça m'a amené à une théorie que je vais tester dans d'autres domaines dans les semaines et les mois à venir, et que je vais pouvoir aussi tester sur la durée. C'est pour ça que je vous en reparlerai dans quelques mois, je pense. Ma théorie, c'est que je me demande si, quand on essaye de mettre en place une habitude ou de faire un projet, d'avancer dans quelque chose, de mettre en place des actions dans notre vie, quelles qu'elles soient, et qu'on ressent beaucoup de stress et de pression et de résistance à le faire, c'est-à-dire quand on est dans une situation où on a l'impression de se battre contre soi-même, je me demande si c'est pas lié au fait qu'en fait on n'a pas encore trouvé un mode de fonctionnement qui nous convient, un mode d'organisation qui nous convient. Qu'en fait, on essaye d'appliquer en fait une recette ou une façon de faire qu'on a pu lire ou entendre ou voir quelque part et qu'on essaye de se faire violence à le faire d'une certaine manière et qu'en fait, ça ne nous correspond pas. Et je suis en train de me demander si, quand vous trouvez déjà l'activité en elle-même qui vous convient, parce que moi, aller courir 3 fois par semaine, ça me convient, ou écrire, ça me convient parce que j'aime courir et j'aime écrire. Peut-être que si on me forçait à aller faire un truc que j'aime pas faire, ben ça collerait pas. Mais aussi, est-ce que ce serait pas parce qu'on n'a pas trouvé notre propre fonctionnement, qui fonctionne pour nous, qui est fluide pour nous ? Moi, en fait, pendant des années, j'ai essayé de me mettre des objectifs de performance, parce que c'est ce qu'on nous dit de faire avec les habitudes, vous savez, X minutes par jour, X mots par jour, X kilomètres par sortie, etc. Et moi, en fait, ça ne me convient pas du tout. Et depuis que j'ai laissé tomber ce truc qui ne me convient pas et que j'ai trouvé plutôt une autre façon de faire qui me convient beaucoup mieux, qui est de me dire je me pointe et par contre je respecte mes rythmes et je ne mets aucune pression de performance, bah, ça devient hyper facile. D'un seul coup, il n'y a plus le stress, il n'y a plus la pression. Donc voilà, je me demande. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez testé plein d'organisations différentes dans votre vie, plein de modes de fonctionnement. Est-ce que vous avez remarqué une différence quand vous trouvez un mode de fonctionnement qui vous convient? Voilà. Voilà, donc si vous avez envie de tester cette histoire de répétition pour vous-même, je vous conseille de commencer petit. Je vous conseille d'y aller petit à petit en vous fixant un objectif de répétition avant tout. L'objectif de performance peut arriver dans un second temps, une fois que l'habitude est bien ancrée, par exemple. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des idées, des ressources à partager, etc., vous pouvez laisser un commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/BN143 pour le bénéfice de tous les auditeurs et auditrices. Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre du dimanche matin pour un accès à une correspondance hebdomadaire et les infos clés sur mon activité sans le filtre des algorithmes sur floriteller.com/lettre. Pour me contacter, vous pouvez aller voir floriteller.com/contact. En attendant, merci infiniment d'avoir écouté cette bulle jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à la prochaine !